Alors ce matin, on va pas poursuivre pour l'instant notre parcours dans l'évangile de Marc qu'on a réinitié il y a quelques semaines. En fait, on devait avoir un orateur invité ce matin et voilà, un petit conflit d'agenda fait que ça n'a pas pu être possible. Donc voilà, je vous propose qu'on aille ce matin dans l'Ancien Testament, dans ce livre des Rois. Et je vous propose de lire ce passage, 1 Roi, chapitre 3, les versets 4 à 28. Le roi, donc le roi Salomon, se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit, et Dieu lui dit « Demande-moi ce que tu veux que je te donne ». Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté, et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi, ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté, ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, « Puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. » Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu marches dans mes voies en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. Salomon se réveilla et voilà quel avait été son rêve. Il revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion, et il fit un festin pour tous ses serviteurs. C'est alors que deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble, il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison, il n'y a que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils, qui était à côté de moi pendant que moi, ta servante, je dormais, et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle l'a couché contre moi. Ce matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement, le matin venu, et ce n'était pas mon fils, celui que j'avais mis au monde. L'autre femme dit, « C'est faux !» C'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. Le roi constata, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort, et l'autre dit, absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. Puis il ordonna, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Le roi dit alors, coupez en deux l'enfant qui est en vie et donnez-en la moitié à chacune. Alors la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils et elle dit au roi, ah mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie, ne le faites pas mourir. Mais l'autre répliqua, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Prenant la parole, le roi dit alors, donnez l'enfant qui est en vie à la première femme. Ne le faites pas mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. On change de décor. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu Aladdin ? Tout le monde ? Un classique, hein ? Un classique. Aladdin va trouver une lampe dans une grotte au trésor, et puis bien sûr, il va sortir un génie de cette lampe, un génie qui va lui dire à Aladdin, tu as 3 vœux à faire, et je vais les exaucer pour toi. Est-ce que vous vous rappelez le premier vœu d'Aladdin ? Ouais, fais de moi un prince. Aladdin de la basse société est tombé amoureux d'une princesse de la haute société. Et il sait que le seul moyen de l'atteindre, c'est de devenir à son tour un prince. Donc il fait un vœu de richesse, de pouvoir, pour pouvoir séduire la belle Jasmine. Deuxième vœu, c'est pas vraiment Aladdin qui le fait, c'est le génie qui le fait pour lui quand il est dans une situation où il est sur le point de mourir, et il le sauve. Ce désir d'échapper à la mort, de prolonger la vie. Troisième vœu. Exactement. Un vœu de liberté. Le génie est captif de cette lampe depuis des siècles. Et Aladdin va faire ce vœu de liberté. Qu'aurions-nous demandé à Dieu devant cette question ? Alors que Salomon est tout au début de son règne, la passation vient de se faire avec son père David, qui était roi d'Israël, qu'il vient de consolider sa place en faisant un petit peu du ménage autour de lui, vous pourrez relire ça dans les chapitres qui précèdent, qu'il vient de manifester toute sa foi et son amour pour Dieu par un généreux sacrifice, 1000 holocaustes. Dieu lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Que répond Salomon ? Salomon demande à Dieu la sagesse, verset 9. Et je vous propose dans un premier temps de voir qu'est-ce qui motive cette demande. On voit que la demande de Salomon est fondée sur 3 constats. 3 constats. Le premier, on va le reprendre, verset 6. Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité et la justice et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, éternel mon Dieu, tu m'as établi roi. » Quel est le constat, ce premier constat de Salomon ? Exactement. Salomon a un juste regard de qui est Dieu. Il reconnaît la bonté, la grâce souveraine de Dieu dans sa vie et dans celle de son père. Il sait en fait que celui qui règne vraiment, qui est au contrôle de l'univers, comme cela nous a été rappelé ce matin, qui est le maître de l'histoire, c'est bien Dieu lui-même. Et il sait très bien que si lui, Salomon, est là où il en est aujourd'hui, sur le trône, à la suite de son père, eh bien il le doit à Dieu, à sa grâce, à sa fidélité, à son alliance, à son engagement envers son père. Deuxième constat, on reprend le verset 7. « Maintenant, éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai pas d'expérience. » Quel est le deuxième constat de Salomon ? Salomon a un juste regard sur lui-même, sur ses propres limites, sur ses propres faiblesses. Il sait qu'il est jeune, et on estime à peu près son âge aux alentours de 20 ans, quand il a accédé au pouvoir. Il sait très bien qu'il manque d'expérience. Et il a cette humilité de reconnaître qu'il n'est pas à la hauteur de la tâche à laquelle il est appelé. Il sait que tout en étant roi, il demeure avant toute chose un serviteur de Dieu. Troisième constat. Verset 8. « Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi. Et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté, ni recensé. » Quel est le constat de Salomon ici ? Est-ce que, alors je suis désolé, on revisite un petit peu les classiques ce matin. Et est-ce qu'il y en a qui ont vu Spider-Man, le premier ? Ouais. Dans le film, celui qui est Spider-Man, Peter Parker, parle de son oncle qui est décédé et qui lui avait dit une fois une phrase, et c'est la phrase leitmotiv du film. Est-ce que vous vous rappelez de cette phrase ? Redis. Ouais, tout à fait. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La demande de sagesse que formule Salomon est fondée sur le constat de ses responsabilités. Salomon mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend. Il sait que ce peuple nombreux sur lequel il est appelé à gouverner, à conduire, ne lui appartient pas. C'est celui de Dieu. Il sait combien la responsabilité est grande. Il ne veut pas faire n'importe quoi avec ces personnes que Dieu lui confie. Alors on n'est peut-être pas tous des rois comme Salomon l'a été, mais nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné de nos vies, des responsabilités. Si on est responsable de l'Église, quand on a un juste regard sur la grâce souveraine de Dieu, qu'on se rappelle que c'est Christ qui est le chef de l'Église, qu'on n'est pas là parce qu'on le mérite, mais par la grâce de Dieu qui nous appelle à le servir. Quand on a en même temps ce juste regard sur soi-même, sur ses propres limites, sur ses propres manquements, sur ses propres faiblesses, et qu'on a aussi un juste regard sur nos responsabilités, ce n'est pas notre Église, mais c'est celle de Christ, et on est appelé à bien la conduire, à bien la diriger, à prendre soin de nos frères et sœurs. Alors, on fait cette prière. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Peut-être que si on est chef d'entreprise et qu'on a un juste regard sur la grâce souveraine de Dieu, c'est lui qui a permis que j'en arrive là aujourd'hui. Que j'ai ce regard lucide sur mes propres faiblesses et limites et sur mes propres responsabilités envers mes salariés qui ne m'appartiennent pas, mais que je suis appelé à diriger. Alors on fait cette prière. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Si vous êtes parent et que vous avez ce juste regard sur le fait que c'est Dieu qui a permis dans sa grâce souveraine que je puisse avoir des enfants, quand je prends conscience de mes propres limites et faiblesses dans l'exercice de mes responsabilités de parent, quand je mesure que mes enfants ne m'appartiennent pas, mais qu'ils sont à Dieu qui me les confie pour en prendre soin, pour les éduquer, alors nous faisons cette prière. Seigneur, donne-nous de la sagesse. Ou même pour ce domaine très pratique de nos vies, la gestion de notre argent. Quand on prend conscience que ce que nous avons sur le compte en banque nous vient de Dieu, qu'on mesure nos limites et nos faiblesses, combien on pourrait si facilement dépenser cet argent comme il ne le faut pas, quand on mesure notre responsabilité de gérer cet argent que Dieu nous confie, alors nous avons besoin de faire cette prière. Seigneur, donne-nous de la sagesse. La sagesse, cette demande de sagesse de Salomon est une demande fondée sur le constat de qui est Dieu, de ses propres limites et de ses responsabilités. Mais pourquoi est-ce que Salomon demande la sagesse ? En fait, on voit que cette demande de sagesse vise un objectif précis. Et ça va nous aider à comprendre un petit peu un aspect de ce que cette sagesse qui vient de Dieu veut dire. Je reprends le verset 9. Salomon dit « Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ou gouverner ton peuple, pour distinguer, dans d'autres versions, discerner le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important ?» Dans certaines versions, c'est Salomon demande un cœur intelligent. Mais j'aime beaucoup la traduction de la seconde 21, qui est beaucoup plus proche du sens original, et qui est traduit donc « un cœur apte à écouter » ou « un cœur attentif ». Et c'est ça la sagesse. C'est un cœur apte à écouter pour discerner le bien du mal. Et on peut se poser cette question ce matin, mais ok, mais écouter qui ou écouter quoi ? Il y a quelqu'un qui a dit, de la même manière que nous avons deux oreilles, la sagesse nous pousse à une double écoute. Il y a tout d'abord l'écoute des personnes qui m'entourent, des gens, du monde, la société, mon propre cœur. Que sont-ils en train de me dire ? Que nous proposent-ils ? Quels sont leurs besoins ? Quelles sont leurs préoccupations ? Quels sont leurs désirs ? Et on a, à la fin de ce passage, l'exemple de Salomon qui va prendre le temps d'écouter les deux femmes qui viennent lui présenter la situation de ses bébés. Les patrons ont besoin d'écouter leurs employés. Les responsables d'église ont besoin d'écouter leurs frères et sœurs. Les parents écoutent leurs enfants. Nous écoutons chaque jour de nombreuses voix aussi. La télé, la radio, les réseaux sociaux, la publicité, nos amis, nos voisins, mais aussi nos propres cœurs et ses désirs. Et toutes ces voix que l'on entend, toutes ces choses que l'on entend, nous placent constamment devant des choix à faire. Puisque l'objectif de la sagesse, c'est de nous amener à discerner le bien du mal, nous n'avons pas seulement besoin d'écouter ces voix-là, nous avons aussi besoin d'écouter Dieu, celui qui est la référence en matière de ce qui est bon, juste et vrai. Afin de pouvoir filtrer, de pouvoir comparer ce que j'entends d'un côté avec ce que Dieu désire de l'autre. Est-ce que ce que j'entends est conforme à la volonté de Dieu ? Est-ce que ce que j'entends va m'amener à honorer Dieu ? Et on peut mesurer tout à nouveau la centralité, l'importance de la Bible, parole de Dieu pour connaître sa volonté. Et l'importance d'être à l'écoute du Saint-Esprit aussi, pour nous guider, nous rappeler ses vérités. Pour ces deux femmes qui se présentent à Salomon, Salomon n'a que leur témoignage. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de test ADN. Et pourtant, Dieu va donner à Salomon ce discernement sur la nature humaine et finalement l'instinct maternel qui se manifeste dans certaines situations. La sagesse n'est donc pas qu'une question de connaissance ou d'intelligence, mais c'est la capacité à voir le monde selon la perspective de Dieu et à vivre notre vie terrestre, chercher à vivre notre vie terrestre en conformité avec cette perspective. Quelle est la réponse de Dieu à cette demande. Verset 10, cette demande plut à Dieu. Waouh. J'aimerais des fois demander des choses à Dieu et entendre le Seigneur me répondre. C'est une bonne demande, Michael. Pourquoi est-ce que cette demande de sagesse plaît à Dieu? Eh bien, il me semble que la première, c'est qu'elle révèle que les désirs, à ce moment-là, les désirs du cœur de Salomon ne sont pas alignés sur ses propres intérêts. Il aurait pu demander la richesse, il aurait pu demander la gloire, une longue vie. Mais ils sont centrés sur Dieu, les intérêts de Dieu et les intérêts de son peuple. Dieu n'est pas comme le génie de la lampe d'Aladin. Il n'est pas à notre disposition pour satisfaire tous nos désirs et tous nos rêves. Et je crois que cette demande de Dieu à Salomon en début de règne était un petit peu un test à l'égard de Salomon pour sonder son cœur, ses profondes motivations. Salomon désire le bien du peuple en le dirigeant de manière à honorer les intérêts de Dieu lui-même. Deuxième raison, parce que cette demande est parfaitement alignée avec la volonté de Dieu de donner la sagesse à ceux qui la lui demandent. On peut lire dans Jacques chapitre 1, verset 5, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Non seulement Dieu va accorder la sagesse à Salomon de manière unique, mais il lui donnera aussi la gloire et la richesse qu'il n'a pas demandé. Alors on n'a pas ici une théologie de la prospérité, mais c'est une manière de montrer, il me semble, qu'il y a des bénédictions, pas toujours matérielles, mais dans tous les cas spirituelles, qui sont associées au fait de chercher à vivre nos vies d'une manière qui plaît à Dieu et qui l'honore. J'aimerais terminer par trois remarques, trois réflexions, trois applications. La première, c'est prions. Prions régulièrement les uns pour les autres. Prions régulièrement à titre personnel. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons tous dans nos vies, à un moment ou l'autre, des responsabilités. Prions pour nous-mêmes, mais prions pour celles et ceux aussi où nous avons conscience qu'ils ou elles ont des responsabilités. Faisons cette prière régulièrement. Seigneur, donne-moi, donne-leur de la sagesse. Pensons à nos autorités, et c'est en ce sens-là qu'on est aussi appelé à prier pour nos autorités. Ils ont de grandes responsabilités, un grand pouvoir. Seigneur, donne-leur de la sagesse. Deuxième remarque, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, un passage comme celui-là me met dans un inconfort et une tension particulière. Parce qu'en tant que chrétien, je ne suis pas toujours à l'aise avec ce thème de la sagesse. Parce que finalement, quand on essaye de suivre ce que le texte nous dit et ce que d'autres passages dans la Bible nous disent, on se rend compte qu'il n'y a que deux voies qui existent. Il est question ici de sagesse pour discerner entre le bien et le mal, mais par ailleurs, il est question de la voie du salut et de la voie de la perdition. Il est question d'une vie juste ou d'une vie insensée. Il est question en fait de blanc ou de noir, mais en fait, dans les faits, combien souvent, et je parle pour moi, le premier, je me sens plutôt dans une zone de gris. Et il n'y a pas de zone de gris dans la parole de Dieu. Parce que je me rends compte Quand je regarde à ma propre vie, je ne fais pas toujours les bons choix. Combien ma vie est parfois marquée par le compromis. Et quand on regarde à la vie de Salomon lui-même, il ne fera pas toujours les bons choix. Et il me semble que cette allusion volontaire de l'auteur en début de règne de Salomon qui mentionne ses sacrifices sur les hauts lieux, qui étaient totalement interdits par Dieu, et qui fera allusion aussi à ce mariage avec cette fille du Pharaon, donc d'un peuple étranger, qui n'était pas non plus ce que Dieu désirait pour son peuple, nous montre que Salomon lui-même ne fera pas toujours les bons choix. Et on sait que la vie de Salomon ne va pas bien se terminer. Mais on voit comment Salomon, ce roi de la lignée de David, qui demande de la sagesse, préfigure en quelque sorte Jésus-Christ, celui qui est le roi parfait, celui qui est la sagesse incarnée, qui s'est fait homme, qui a vécu la vie parfaitement sage que nous n'arrivons pas à vivre. Cela nous a été rappelé ce matin. Qui a toujours fait les bons choix, des choix qui étaient toujours parfaitement alignés avec les intérêts de son Père et pour le bien des autres. Parfaitement aligné avec la volonté de son Père. Salomon pointe vers Jésus, ce roi sage, qui va subir à notre place, justement, les conséquences de nos mauvais choix, passés, présents et futurs, de nos compromis, de notre manque de sagesse, en mourant sur une croix et en ressuscitant afin que nous ne soyons plus jamais condamnés. Enfin, j'aimerais terminer et m'adresser à vous qui peut-être êtes en chemin dans la découverte de la foi, qui n'êtes peut-être pas encore disciple de Jésus. Et vous voyez vivre les chrétiens autour de vous, et peut-être que cela vous donne envie de goûter à cette relation de proximité avec Dieu, cette relation personnelle avec Dieu. Et peut-être qu'au fond de vous, vous mesurez aussi votre besoin de sagesse. Proverbes chapitre 9, verset 10 nous dit « La sagesse commence par la crainte de l'Éternel ». On n'a pas ici la crainte d'un chien battu qui recule terrorisé devant un maître cruel, mais la crainte dont il est question ici, c'est celle qui reconnaît que Dieu est parfaitement bon, juste et sage, et que je ne le suis pas. C'est celle qui reconnaît que finalement Jésus-Christ est mon seul espoir. C'est celle qui fléchit les genoux devant la croix, qui abandonne toute prétention à vivre selon sa propre sagesse, qui abandonne toute prétention de faire pour soi-même ses propres choix, de déterminer soi-même ce qui est bien, ce qui est mal. C'est cette crainte qui fait pleinement confiance à Jésus-Christ, ce roi sage. Voilà comment on entre en relation avec Dieu. Et c'est le début de la sagesse selon Dieu. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle elle est comme un miroir dans nos vies. Elle nous place devant tes projets pour nous, ta volonté qui est toujours bonne, parfaite, mais qui est un standard inatteignable pour l'être humain. Et cela n'est pas là pour nous accabler, pour nous placer la tête sous l'eau, mais tout simplement pour nous mener devant ce constat que nous ne sommes pas à la hauteur et que nous avons besoin d'un sauveur. Alors je veux te célébrer, je veux t'honorer, te glorifier encore ce matin pour Jésus-Christ qui est venu et qui a été ce roi sage, qui a toujours fait ses bons choix et qui a subi sur cette croix, comme on l'a pu se le rappeler tout à l'heure par ce pain et ce vin, qui a subi sur cette croix tous nos loupés, toutes les fois où nous avons manqué de sagesse et où nous manquerons très certainement encore de sagesse dans nos choix. Seigneur, on veut te faire cette prière, te demander de prendre toute la place qui te revient dans nos cœurs. Rends-nous sensibles à toi. Donne-nous de grandir dans notre relation avec toi, dans l'écoute de ta parole. Donne-nous du discernement, de cette sagesse dont nous avons besoin pour entendre ta voix, connaître ta volonté, et que par ton esprit qui habite en nous, tu nous donnes la force, le désir de vivre et de faire des choix dans nos vies sur cette terre qui soient conformes à ta volonté. Merci pour ta grâce aussi dans nos vies, parce que bien des fois ce n'est pas le cas, nous échouons, nous tombons, mais ta grâce est là et elle est infinie. Et si nous confessons nos manquements, Seigneur, tu nous dis que tu es fidèle, tu es juste pour nous pardonner et pour nous purifier de nos iniquités, de notre péché. Merci pour ces promesses, pour ces rappels. Et Seigneur, que la gloire, l'honneur te reviennent, à toi et à toi seul. Amen.